La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il a passé 27 années de sa vie enfermé dans un asile d'aliénés comme à Charenton, ainsi que dans les prisons de Vincennes ou de la Bastille, pour ne citer que les plus célèbres de ces tristes villégiatures. Son patronyme De Sade connote jusque dans sa sonorité le vice, la luxure et la perversité dont on l'a toujours accusé, mais dont il se défendait au nom de cette nature humaine qu'il souhaitait faire voir dans toute sa réalité. Toujours est-il que l'on se déchire autour de ce nom dans lequel certains voit un libérateur des hypocrisies de l'ordre moral et d'autres un égoïste sombrement dominateur. Demain, Éric Marty viendra nous parler des lectures que les intellectuels ont fait de Sade au XXe siècle, de Foucault à Barthes, d'Adorno à Philippe Solers. Hier, nous avons tenté de définir l'amour selon Sade avec l'historien Michel Delon. Enfin, lundi dernier, c'était comme d'habitude le temps de la biographie. Stéphanie Genant, dont le Sade vient de paraître chez Folio, était mon invitée. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour parler de Sade et les femmes, et ensuite de la femme de Sade, nous serons en seconde partie avec Cécile Guilbert, qui a édité avec Pierre Leroy le volume intitulé « 50 lettres du marquis de Sade à sa femme » aux éditions Flammarion en 2009. Et en première partie, nous sommes avec Florence Lautry, professeure de littérature française du 18e à l'Université Paris Diderot et également auteure de l'essai « Le genre des Lumières, femme et philosophe au 18e siècle » paru en 2013 aux éditions Classique Garnier. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Quel est l'objet de l'homme qui jouit ? N'est-il pas de donner à ses sens toute l'irritation dont ils sont susceptibles ? Afin d'arriver mieux et plus chaudement au moyen de cela à la dernière crise. Crise précieuse qui caractérise la jouissance de bonne ou mauvaise en raison du plus ou du moins d'activité dont s'est trouvée cette crise. Or, n'est-ce pas un sophisme insoutenable que d'oser dire qu'il est nécessaire pour l'améliorer qu'elle soit partagée de la femme ? N'est-il donc pas visible que la femme ne peut rien partager avec nous sans nous prendre, et que tout ce qu'elle dérobe doit nécessairement être à nos dépens ? Et de quelle nécessité est-il donc, je le demande, qu'une femme jouisse quand nous jouissons ?
Une lecture de Justine ou les malheurs de la vertu, lue par Valérie Lang. Bonjour Florence Lautry.
Bonjour.
Ce n'est peut-être pas ce genre d'extrait qui a fait de Sade un ami des féministes, peut-être bien au contraire. On a parfois l'impression que finalement, pour Sade, les femmes sont quantité négligeable. C'est en tout cas ce qu'on entend, ce qu'on comprend dans cet extrait-là. Dans d'autres extraits, on va le voir, on peut imaginer le contraire. C'est l'objet de cette première partie qu'on va détailler avec vous. Peut-être un point général pour commencer, Florence Lautry, sur cette question.
Alors, vous avez commencé en disant « pour Sade ». Mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, comme dans d'autres que vous auriez pu choisir, l'histoire de Juliette, les grands discours de Gernande, par exemple, qui est un antiféministe notoire dans l'histoire de Juliette, ce sont des discours qui sont prêtés à un certain type d'énonciateur et qui n'engagent pas nécessairement l'ensemble de l'économie du texte.
Voilà. C'est l'éternelle différence qu'il faut, dites-vous, continuer de faire entre le personnage, le narrateur et l'auteur.
Oui, absolument. Et c'est d'autant plus important dans le cas de Sade, puisque depuis le début de votre série d'émissions, vous avez commencé par la biographie, s'il y a quelque chose qui pèse sur Sade, c'est bien la manière dont se trouve nouée sa vie, et plus exactement les jugements qu'on porte sur sa vie, et l'œuvre. Et une manière de desserrer les choses, c'est une manière parmi d'autres, c'est de faire cette distinction quand même.
Donc on a assimilé les propos des personnages de Sade avec lui-même, et puis aussi on le lit peut-être toujours à l'aune du contemporain, de notre actualité. Est-ce que pour vous, ça, c'est aussi une erreur récurrente ?
Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, en tout cas, c'est un débat. C'est un débat depuis longtemps, depuis les premières lectures féministes de Sade, la femme sadienne d'Angela Carter par exemple, jusqu'à notre contemporanéité même la plus proche, puisqu'il y a aujourd'hui des jeunes chercheurs qui s'interrogent en féministes et en militants sur la possibilité de relire l'ensemble des œuvres du XVIIIe siècle, et en particulier Sade, du point de vue de l'interrogation sur la violence sexuelle. Mmh. Et dans la violence sexuelle, le rapport des sexes et la symétrie des sexes que ça engage. Alors c'est une question qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas dire à des étudiants, non, ça n'existe pas. On ne peut pas nier la centralité phallique chez Sade, ce serait complètement absurde. Elle est là partout. Le fait est qu'elle peut se déplacer. Là-dessus, je serais assez d'accord avec Éric Marty, qui suggère une lecture, justement à partir de la figure de Justine, comme étant une manière de décaler régulièrement la position phallique. Et c'est là que les femmes peuvent réintervenir, mais dans une autre place, justement, qui n'est pas la place dans le groupe femmes opprimées, mais qui est plutôt une place d'émancipation possible, dans des scénarios qui le permettent.
Alors vous allez nous expliquer tout ça, parce que c'est pas forcément très intuitif ni très facile à comprendre. Votre ouvrage, Le genre des Lumières, femmes et philosophes au XVIIIe siècle, est un ouvrage dans lequel vous abordez évidemment le cas de Sade, mais plus largement vous vous intéressez à des femmes philosophes, des femmes qui dissertent allègrement sur tous les grands sujets de l'humanité. Sade fait dire à Saint-Ange, par exemple, dans La philosophie dans le boudoir, que les courtisanes sont les seules véritablement philosophes. Qu'est-ce que ça signifie dans sa bouche, ou plutôt sous sa plume ?
Alors, ça signifie que, d'abord, derrière ça, il y a un modèle, qui est le roman de la courtisane, que Sade n'invente pas, dans lequel il se situe. Il y a plein de romans au XVIIIe siècle dans lesquels des courtisanes sont mises en scène comme ayant une capacité à philosopher. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en dehors de l'économie générale des sexes. Mmh. Elles sont marginales, et c'est une marginalité qui permet en plus une autonomie et une autonomie économique. Mmh. Alors, la Juliette de Sade va, si vous voulez, radicaliser cette position. Non seulement elle est complètement indépendante économiquement, mais c'est précisément son prix économique qui lui permet à tout moment de surenchérir sur la domination de sa position par rapport aux hommes.
Donc vous dites que la courtisane chez Sade a choisi d'être courtisane, elle a choisi sa condition.
Oui, là-dessus je serais assez proche du coup de la lecture de Simone de Beauvoir. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'émancipation qui passe effectivement par la sortie de l'économie sexuelle classique. Et la courtisane, d'autant qu'elle est dans l'histoire de Juliette, en plus une tribade. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se situe pas dans sa sexualité du côté des hommes. Bien sûr, elle se fait payer pour ça. Mais le fond de son indépendance, c'est le fait qu'elle soit une courtisane philosophe tribade.
Mmh. Alors, pourquoi les femmes philosophent-elles chez Sade le font-elles pour s'attaquer précisément à un homme qui serait un homme tout puissant, ce qui là encore est très contre-intuitif dans le cas de Sade, de ses écrits.
Alors, ça c'est vraiment une question difficile. Les femmes qui philosophent se tiennent aussi du côté des hommes qui dominent. Et elles prennent leur part d'un pouvoir qui est aussi théorisé et pratiqué par des hommes, qu'elles reconnaissent comme dominants.
Donc il y a une pensée de la domination homme-femme dans ses écrits.
Il y a une pensée de la domination tout court chez Sade. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est réversible. Vous avez des situations. Il n'y a pas chez Sade, on ne peut pas, quand on a lu tout l'œuvre de Sade, dire qu'il y a une analogie complète et totale entre femme victime, homme bourreau, homme philosophe, femme écoutante passive. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et lui-même pratique des réversions de scénarios sans arrêt. Il y a des choses qu'on peut lire dans La philosophie dans le boudoir, dans l'histoire de Juliette, qui mettent la femme en position dominante dans des conditions qui vont se retourner complètement contre la femme elle-même dans d'autres textes. Donc c'est très difficile de considérer que il y a une pensée de Sade sur la domination masculine.
Alors comment penser Sade justement ? Comment tirer tout de même ? On a envie de conclure sur ce que dit Sade ou ce que veut faire Sade. Ça vous paraît pas possible ?
Non, je crois que c'est difficile de conclure. Il me semble qu'il propose des positions telles dans ses textes, tellement complexes, et pas seulement complexes du point de vue des rapports des hommes et des femmes, mais du point de vue du féminin et du masculin, des identités, que c'est très difficile de conclure à la prédilection pour un scénario plutôt que pour un autre. Sauf quantitativement. Quantitativement, oui. Il y a le scénario de domination des hommes, des femmes par les hommes, j'ai failli faire un lapsus, qui est répétitif, qui est plus insistant, si vous voulez. Mais ce qui est troublant, c'est pas seulement la quantité, c'est la qualité.
Alors, on va écouter, avant de poursuivre cette conversation, au sujet du personnage de Juliette, l'écrivaine Annie Lebrun.
Le fait que Sade ait choisi une figure féminine pour incarner la plus grande liberté, l'idée qu'il a, lui, de la plus grande liberté, que ça n'est pas du tout par hasard. C'est-à-dire que je pense que Sade a précisément choisi, avec la femme qui est Juliette, le personnage qui, au départ, a le plus d'handicap. C'est-à-dire, en prenant une figure féminine, c'est un personnage sur qui pèse non seulement, comme sur chaque être, toutes les contingences sociales, morales, religieuses, économiques même, mais en plus où il y a cette fatalité de la nature qui fait que la femme est encore beaucoup plus assujettie à la nature que l'homme ne l'est, ne serait-ce que par la maternité. Et ce qu'il y a de fascinant dans la façon dont Sade construit le personnage de Juliette, c'est bien de montrer comment Juliette gagne sa liberté, et elle la gagne en se débarrassant, en se dépouillant même, je dirais, de tous les rôles, les uns après les autres, électivement de tous les rôles associés à la féminité.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Florence Lottery, sur ce qu'on vient d'entendre.
Oui, j'adhère tout à fait à la position d'Annie Lebrun. Je crois que Sade a effectivement construit un personnage qui se délie de tout. Toute l'odyssée sanglante de Juliette, elle-même, ça peut s'interpréter comme une manière de ne rien laisser derrière soi. Elle brûle tout derrière elle. Elle commence d'ailleurs sa carrière de manière tout à fait classique dans un roman comme celui-là. Je pense à La vie de Marianne, des choses comme ça. Elle est seule, elle n'a pas de parents, elles sont orphelines, Justine et Juliette. Mais elle fait de son orphelinat quelque chose d'actif. Et en faisant quelque chose d'actif, elle a une chance quand même au milieu de tout ça, c'est qu'elle a une éducatrice première.
Elle
en a même plusieurs. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire de Juliette, c'est que la base continue, c'est la chaîne d'éducation des femmes, une chaîne tout à fait séparatiste, comme dirait Monique Wittig, d'Amazon, finalement, qui se construisent entre elles, par elles-mêmes, autour, bien sûr, de communautés qui peuvent être des communautés masculines, mais dans lesquelles, finalement, le principe féminin va continuer à avancer jusqu'au bout, parce qu'à la fin, Juliette est dans une espèce, allez, on va oser, le trouble philosophique, avec des positions qui sont quand même très curieuses. Noirceuil, c'est quoi? C'est le sodomite radical absolu. La Durand, c'est une magicienne tribade absolue, qui, par ailleurs, a un organe génital phallique. Elle a un clitoris dont je ne me souviens même plus des mensurations, mais c'est tout à fait de l'ordre du magique.
On dit qu'il est énorme.
Voilà, on dit qu'il est énorme. Et puis Juliette elle-même qui est la grande tribade. Donc toutes ces positions-là ne peuvent exister en communauté que parce qu'elles sont absolument aux extrêmes des possibilités sexuelles et des identités de genre. Et de ce fait, Juliette a réussi une forme de déliaison de toutes les communautés traditionnelles dans lesquelles elle aurait pu se trouver enfermée. Il faut rappeler aussi qu'elle tue sa propre fille, habillée en homme.
C'est important ça que...
C'est intéressant.
Elle est
travestie en homme pour assassiner sa propre fille, qui d'ailleurs s'appelle Marianne. Donc là, je crois qu'il y a un principe souverain. Ça veut dire que... ça pourrait vouloir dire... Pour pratiquer une transgression aussi forte, il faut être du côté du masculin. Mais ça peut vouloir
dire... Donc une critique implicite de la domination masculine ?
Peut-être. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Je dirais plutôt, compte tenu de l'ensemble des travestissements, des changements de rôle, des changements de position dans ce roman, du principe de mobilité qui est celui de ce roman, que c'est une des manières de révéler qu'on peut changer de position sexuée à tout moment. Mmh. Et peut-être, en effet, de performer, comme on dit depuis Judith Butler, de performer une identité masculine au moment où on est la matricide.
Donc vous nous expliquez, Florence Lottery, que Judith Butler est une disciple de Sade.
Ça, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas si Judith Butler est une disciple de Sade. En tout cas, les instruments de pensée que Judith Butler a pu proposer peuvent parfois permettre de construire une lecture intéressante de Sade.
Mmh. Pour continuer sur ce personnage de Juliette, il y a plusieurs exemples qui montrent que c'est un personnage de femme forte. Par exemple, elle est reçue par le roi de Sardaigne
oui. À
un moment donné, et puis elle lui assène une espèce de dissertation patriotique. Donc là, c'est la peinture d'une femme qui est capable d'être une intellectuelle aussi, au vol, d'avoir une vision géostratégique, géopolitique. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? C'est une femme forte qui s'exprime ici ?
Oui, alors on peut y voir beaucoup de choses, notamment si on situe le roman dans son contexte historique, le fait que Sade a tenu compte du contexte révolutionnaire, le roman c'est 1801, et Juliette traverse l'Europe, et elle traverse l'Europe des despotes. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, il y a Brisa Testa qui fait ça aussi, le bandit. Et en traversant l'Europe des despotes, elle prend en effet la position à la fois de la courtisane d'Ancien Régime qui fuit la France, parce qu'elle n'a pas été assez libertine à un moment donné, elle a refusé, elle a été faible, elle a refusé de s'associer à un projet de dépopulation de la France avec le ministre Saint-Fond. Donc elle est poursuivie pour faiblesse philosophique.
Oui.
Mais en traversant la frontière, réversibilité, elle change de rôle et elle devient cette révolutionnaire qui peut en effet apostropher et interpeller le despote. Et là, Sade s'empare de toute la rhétorique révolutionnaire, patriotique, des années révolutionnaires. Et donc, il peut faire de Juliette ce possible révolutionnaire en lien direct avec sa destinée de déliaison originelle.
En vain offrait-on à mes regards tranquilles tout ce qu'on imaginait de plus propre à toucher ma sensibilité. Des mères éplorées, des enfants nus, des spectres dévorés par la faim. Rien ne m'ébranlait. Rien ne sortait mon âme de son assiette ordinaire et l'on n'obtenait jamais de moi que des refus. Ce fut alors qu'en me rendant compte de mes sensations, j'éprouvai, ainsi que me l'avaient annoncé mes instituteurs, au lieu du sentiment pénible de la pitié, une certaine commotion produite par le mal que je croyais faire en rejetant ces malheureux, et qui fit circuler dans mes nerfs une flamme à peu près semblable à celle qui nous brûle chaque fois que nous brisons un frein ou que nous subjuguons un préjugé. Je conçus dès lors combien il pouvait devenir voluptueux de mettre ces principes en action. Et ce fut de ce moment que je sentis bien qu'aussitôt que le spectacle de l'infortune causée par le sort pouvait être d'une sensualité si parfaite sur des âmes disposées ou préparées par des principes comme ceux que l'on m'inculquait, le spectacle de l'infortune causée par soi-même devait améliorer cette jouissance. Et comme vous savez que ma tête va toujours bien loin, vous n'imaginez pas ce que je conçus de possible et de délicieux sur cela.
Lecture de Juliette, tous les prospérité du vice par cette fois Maude Rayer, les spectacles de l'infortune causée par... alors je n'ai plus la citation là tout de suite qu'on vient d'entendre. Je voulais vous la faire commenter, c'est pas grave. C'est la liberté contre les préjugés oui. qui est là soulignée dans cet extrait.
Oui, et parmi les préjugés, le premier d'entre eux, c'est la pitié ici. Mm. La pitié dont Rousseau proclamait qu'elle était naturelle et qui, pour Sade et pour ses grands libertins, n'est pas naturelle, mais est bien une construction sociale et culturelle.
Alors quel est le problème avec la pitié ?
Ben, le problème avec la pitié, c'est que votre liberté est aliénée par le sentiment de l'autre. Mm-hmm. Il faut pouvoir s'arracher à l'intérêt pour l'autre afin de se recentrer intégralement sur l'intérêt pour et de soi-même. Mmh. C'est à cette condition, qui est une forme d'ascèse pour les libertins, qu'on peut vraiment penser et agir.
Et en même temps, qui est un égoïsme.
Bien sûr, c'est un égoïsme revendiqué. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est une femme qui tient ses propos et que chez Sade, c'est un marqueur premier de l'identité philosophique que de savoir être imperméable à la pitié. Et aux autres.
C'est une femme qui tient ses propos sous la plume d'un homme. Un homme peut faire, peut faire dire à son personnage féminin ce qu'il veut.
Bien sûr, bien sûr. Mais je rejoins ici la question première de d'Annie Lebrun, qui était celle de l'esprit de l'extrait antécédent. Pourquoi Juliette est-elle une femme dans ces conditions ? C'est pas du tout une construction hasardeuse de la part de Sade, de faire porter ça à du féminin.
Ce sont des principes. Il peut se cacher derrière un personnage féminin
oui,
pour se dédouaner.
Il peut également le faire. Pour se dédouaner ou pour s'identifier, comme avec Justine, où il y a vraiment ça, pour le coup. Et au contraire, chez Justine, une demande de prise en compte de la pitié comme un vrai principe aussi. Il ne faut pas oublier que Justine est le double de Juliette, y compris du point de vue d'une identité philosophique possible. Donc là aussi, vous voyez, il y a une réversibilité des deux. Ce qui est intéressant, c'est que Juliette, elle l'a appris de Delben. Sa première institutrice, la première chose que lui apprend Delben, c'est que quand elle n'a plus intérêt à la garder avec elle, elle la met à la rue.
Donc et Delben, c'est l'une des trois
femmes. C'est l'une des trois femmes
qui va enseigner finalement.
Voilà, qui est une supérieure de couvent un peu particulière et qui enseigne. La première chose qu'elle enseigne à Juliette, c'est ça : se défaire de tout individu qui n'est pas directement en phase avec notre intérêt propre. Mmh. Et la pitié est un écran de ce point de vue. C'est une médiation vers l'autre. Qui doit être absolument supprimée si on veut repartir sur des bases philosophiques vraiment saines.
Et c'est là où on retrouve aussi le Sade totalement athée.
Oui.
Puisque la pitié, absolument. C'est bien un sentiment chrétien.
Oui, bien sûr, il y a ça. Et dans cet athéisme, il y a la part du matérialisme, puisque dans l'extrait qu'on a entendu, il y a aussi tout le vocabulaire matérialiste. Savoir mesurer l'impact sur les nerfs, sur le choc voluptueux des atomes, comme dit Dolmansé dans La philosophie dans le boudoir, savoir mesurer ça sur soi, c'est avoir la preuve par le corps, et non pas par la transcendance qui n'existe pas, que le bien se trouve là, le souverain bien se trouve là, et pas ailleurs.
Alors, on lit aussi dans votre livre un rapport plus général de Sade avec l'esprit de son temps et vous expliquez qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a peut-être peur aussi des femmes et que c'est dans ce contexte-là qu'il faut le lire. Alors pourquoi a-t-on peur des femmes, Florence Lautry, à ce moment-là de l'histoire, selon vous ?
Alors, c'est selon moi et c'est selon beaucoup de gens, ça je l'ai pas du tout inventé, la période révolutionnaire, Michel Delon a écrit là-dessus beaucoup, la période révolutionnaire est une période dans laquelle il y a une scène publique où apparaissent des figures féminines dans l'espace politique, avec des revendications, et sous une forme qui est perçue comme une forme essentiellement violente. Donc une possibilité d'hystérisation dangereuse du politique par les femmes. Donc on ferme les clubs en 93, il y a une fermeture politique et civique quasi totale, au beau milieu de la Révolution, qui instruit une peur des femmes qui va ensuite se manifester dans d'autres champs de discours, chez les médecins, et chez les moralistes, et chez un certain nombre d'écrivains, et être même incorporée chez des femmes, qui peuvent répercuter ça.
Alors la femme qu'on n'aime pas, c'est la femme savante, c'est la femme qui parle trop haut, trop fort,
oui.
Ou alors c'est l'image de la femme.
Disons qu'ici on a il y a une conjonction malheureuse, je dirais, entre un imaginaire plus ancien, effectivement celui de la femme savante, celle qui parle un petit peu fort, un peu trop, qui peut être même ridicule pour ça, hein, donc un modèle qui vient en gros de Molière, et puis la perspective, les circonstances de la Révolution, et puis tout cet imaginaire des furies de guillotine, des tricoteuses, hein, qui a été bien analysé par Dominique Godinot, et cette conjonction des deux, finalement, produit un nouvel imaginaire antiféministe.
Et la médecine, si on peut appeler ça médecine, parce qu'on est quand même au début de la médecine à cette époque-là, va aussi dans ce sens, et je pense en particulier, en vous lisant, à Cabanis.
Oui.
Est-ce que vous pouvez développer ce point-là ?
Alors Cabanis appartient à, en effet, une tradition médicale naissante qui est pas née en 1800, qui est née déjà dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, d'une médecine matérialiste. Ce sont des gens qui sont du côté athée même. C'est pas incompatible avec une position par ailleurs qu'on pourrait trouver conservatrice, et qui défendent le modèle que Thomas Laqueur a appelé unisexe. L'autre a appelé au contraire de l'incommensurabilité. Il y a deux modèles, dit-il, dans l'histoire des découvertes de l'anatomie et des discours médicaux depuis le XVIe siècle. Un modèle unisexe, celui qui fait dire que les organes génitaux féminins ne sont que la manifestation intériorisée des organes génitaux masculins, et on voit par exemple que l'utérus et les ovaires constitueraient comme un sexe masculin rentré, hein, ça c'est le modèle unisexe qui repose sur une analogie donc, et qu'on peut retrouver chez Sade autour de cette image récurrente et très difficile à supporter par ailleurs, du vide, du sexe féminin comme vide, et d'un vide insupportable, tellement insupportable qu'il faudrait même le couturer, comme ça arrive dans la philosophie, dans le boudoir. Et puis il y a le modèle de l'incommensurabilité où la femme est foncièrement différente de l'homme. Et si elle l'est anatomiquement, c'est parce que la nature dit quelque chose de sa destination profonde, qui est la maternité, qui est la sensibilité, qui est la mollesse de la fibre, qui est donc la fragilité, la vulnérabilité. Et c'est ce qui fait qu'elle est incompétente à entrer dans les affaires publiques.
Donc c'est une justification de la domination masculine.
Cette fois, on peut le dire
par ce qu'on appelle la médecine.
Ouais. Là, on peut vraiment le dire comme ça.
Et vous dites que ça s'inscrit en faux contre cette vision-là.
Oui, finalement, mais c'est tout aussi compliqué. Il n'y a pas chez Sade, en effet, ce séparatisme anatomique, même pas dans le vocabulaire, pour les raisons que j'ai déjà dites tout à l'heure. C'est-à-dire que Sade est extrêmement sensible aux possibilités qu'on peut déployer des changements de position et des changements d'identité dans les scénarios, soit de rapports philosophiques, soit de rapports érotiques, et de fait des deux, puisque ça se confond chez lui.
Pour terminer, puisque vous avez écrit pour le magazine littéraire, il y a quelques années, un article intitulé « Rire avec Sade », si je me souviens bien, Simone de Beauvoir...
Mourir de rire.
Mourir de rire, voilà. Simone de Beauvoir, vous le citez dans cet article, a parlé du sombre humour de Sade. Est-ce qu'elle retenait d'abord l'humour, ou est-ce qu'elle retenait d'abord le côté sombre?
Mais je crois les deux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Simone de Beauvoir, comme d'habitude, a eu une lecture fine, et essayant de rendre justice à Sade, une lecture très équilibrée. Il y a un de mes collègues qui a écrit un livre qui s'appelle « L'humour noir des Lumières », qui est Éric Le Borgne, et qui accorde à Sade cette possibilité de l'humour noir, du galgen ou mort. Et il y a quelque chose de cet ordre chez Sade. Mais il y a autre chose, il y a tout simplement le fait qu'on peut aussi lire tout Sade, donc aussi la part comique de son œuvre, en liaison étroite avec la part sombre. C'est la lecture que propose Stéphanie Genant, ça, qui est très productive et qui nous permet de relire des textes aussi terribles que l'histoire de Juliette ou que les 120 journées, même les 120 journées, de les relire à la lumière de cette possibilité du rire.
Voilà, Stéphanie Genant qui était notre invitée lundi dernier. Blague un peu gauloise que vous citez dans cet article. Ne faites donc pas les trois virgules d'Olmancé au milieu d'un acte d'amour. Bon, ça c'était simplement pour terminer sur une note un peu trop grasse peut-être.
Non, mais faut pas exclure la gauloiserie de Sade non plus.
Merci beaucoup Florence Lautry. Je rappelle votre ouvrage « Le genre des Lumières, femmes et philosophes au XVIIIe siècle » paru en 2013.